12h. Le bulletin de midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue à ce point de l'information sur Radio de la Paix. En titre de ce bulletin, la Côte d'Ivoire est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le trophée désormais à portée de main du pays organisateur. Mais avant, il faudra affronter dimanche prochain le Nigeria. Les réactions des supporters ivoiriens, mais également celles des joueurs Sébastien Haller et Franck Kessié dans ce bulletin. Et puis la tonne de cacao pour livraison en mars 2024 atteint les 5 000 $ américains, soit un peu plus de 3 millions de francs CFA. Pour le professeur Prao Yao Séraphin, économiste et enseignant-chercheur, cette hausse record du prix du cacao est liée à la baisse profonde de l'offre de fèves de cacao par les principaux pays producteurs. Dans l'actualité internationale, en Tunisie, 13 migrants soudanais sont morts dans un naufrage et 27 autres ont disparu. On en parle dans ce bulletin et en toute fin d'édition, vous retrouverez le spécialiste du droit administratif en tant qu'invité de la rédaction, le Landry Amoussou. Voilà, le professeur Landry Amoussou est interrogé par Junior Cardin et il nous situera sur les textes régissant les rapports entre maire et gouverneur de district. On entame ce bulletin par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire hier face à la République démocratique du Congo. Les pachydermes ivoiriens ont obtenu leur billet pour la finale de la CAN 2023 grâce à un but de l'attaquant vedette Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire croisera en finale le Nigeria, vainqueur de l'Afrique du Sud. Ça sera le dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara des Bimpé. Et pour ce nouvel exploit, les Ivoiriens sont aux anges. On écoute ce reportage de Didier Blé qui était au stade des Bimpé.
65e minute, Sébastien Haller hérite d'un centre côté droit, reprise de volée imparable. Lionel Mpassi, le portier congolais, est lobé. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et le public des Bimpé est hystérique.
C'est un miracle. La Côte d'Ivoire vient de loin.
Et le plus important, c'est de régler encore davantage le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Soit un milieu de terrain qui accélère le ball, soit c'est très bien joué dans l'ensemble. C'était une très belle demi-finale pour la finale que la Côte d'Ivoire gagne la finale.
L'équipe de la Côte d'Ivoire a eu la maîtrise de la balle, a totalement dominé le jeu et c'est ce qui s'est concrétisé là.
La dernière fois qu'on a joué ici, c'était vraiment une défaite catastrophique. On se rattrape, la Côte d'Ivoire qui mène 1-0 jusqu'à la fin. On ne peut être que fiers.
Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire est en finale de sa CAN et c'est un moment historique.
1-0, c'est toujours nous. On gagne quand on veut.
Je vous donne rendez-vous pour la finale. On va fêter.
La Côte d'Ivoire rejoint ainsi le Nigeria en finale ce dimanche 11 février. La petite finale, elle, l'opposera samedi, la RDC, à l'Afrique du Sud, au stade Oufouet-Boigny.
Et toujours à Ebimpe, retrouvons l'attaquant ivoirien Sébastien Haller qui a marqué le but de la victoire à la 65e minute de la rencontre. Et juste après lui, vous entendrez le vice-capitaine des éléphants, Franck Yannick Kessié, lui désigné homme du match de la demi-finale entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, on est fiers d'avoir rendu tout ce monde-là heureux. On est fiers d'avoir rendu une très belle copie aujourd'hui. Donc ouais, même si on veut être un peu tatillon, on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est une victoire et on va savourer avant de jouer la finale dans notre pays. Mais chaque finale est une finale de rêve. Ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe. Comme on l'a dit aujourd'hui, on jouait pas le Congo. Aujourd'hui, on jouait une demi-finale de CAN. Ça suffit pour la motivation. Ça suffit pour savoir à quel point c'est important. Donc aujourd'hui c'est le Nigeria, on sait tous que c'est une très très belle équipe. Elle nous a battus en phase de groupe, donc à nous de prendre notre revanche.
Le foot, quand il y a encore 5% des chances, faut y croire parce que dans le foot on ne sait jamais, c'est ça qui fait la beauté du foot. On a passé des plus mauvais au plus bon, mais faut pas s'arrêter au plus bon parce qu'on a encore du chemin. Donc faut passer du plus mauvais à l'Euro national. Donc faut encore croire. Aujourd'hui faut prendre le temps de récupérer, de savourer cette victoire parce que rien n'est facile. Quand tu gagnes, quand tu as la possibilité, faut vraiment célébrer à fond. Et à partir de demain, commencer à penser finale et se remotiver et travailler pour le dimanche. Comme on le dit, si tu es fatigué, il faut rentrer. La Côte d'Ivoire est encore là.
Vous écoutiez successivement l'attaquant ivoirien Sébastien Haller et le vice-capitaine des éléphants Franck-Yannick Kessié. Pour cette demi-finale face au Congo, les supporters étaient nombreux au village Cannes de Daloa et dans divers lieux de la ville pour soutenir l'équipe nationale jusqu'à la victoire. Les supporters ont cru et affiché une totale confiance jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. C'était donc la liesse populaire, suivant le compte-rendu de Jean-Noël Kouamé, notre correspondant dans le Haut-Sassandra.
Déjà convaincus de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, des supporters donnent leur pronostic avant la rencontre.
Avec l'engagement de la demi-finale, se joue tout à l'heure, le pronostic 2-1 pour la Côte d'Ivoire.
Moi, je donne 2-0 à la Côte d'Ivoire.
Le match sera très difficile aujourd'hui. Je vois 3-2 en faveur de la Côte d'Ivoire.
Au terme de la première période du match, le score est à 0 but partout. Les supporters restent confiants.
En tant que patriote, je garde l'espoir. Je sais qu'à la deuxième période, nous allons les évincer.
Si vraiment l'esprit de combattivité nous habite, je pense qu'on pourrait faire 1-0 ou bien 2-1.
En seconde période, Sébastien Haller inscrit le premier et unique but des éléphants de Côte d'Ivoire. Après le coup de sifflet final de l'arbitre, les populations à Daloa ont une fois de plus parcouru les rues de la ville pour exprimer leur joie.
Nous étions vraiment convaincus que nous allons arriver à cette étape de la finale et nous allons remporter ce tournoi.
Ivoirien, on est qualifié.
La carte, c'est chez nous. Nous sommes satisfaits. À nous aller pour la victoire.
Le directeur régional de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Begré Dominique, a une fois encore appelé au fair play, au civisme et à la prudence pour éviter tout débordement jusqu'à la victoire finale des éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
Et comparativement aux autres régions du pays, les populations de la région du Tonkpi, notamment celle de la ville de Mans, ont célébré la victoire des éléphants sur l'équipe de la République démocratique du Congo avec joie dans les rues de la capitale des 18 montagnes. Les échos avec notre correspondant sur place, Stéphane Adams.
Les éléphants, toujours en course pour le troisième sacre, encore une fois, marquent leurs empreintes par cette victoire sur l'équipe de la République démocratique du Congo, 1-0. Une victoire saluée par la population de Mans dans une ambiance bon enfant.
Moi, je m'appelle Seba Kamara. Vraiment, je suis émerveillé de la victoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en finale.
Comment vous avez apprécié le jeu des éléphants?
Le jeu des éléphants, vraiment, il y a une démonstration. Une démonstration très, très physique, magnifique. Vraiment, je suis heureux.
Biélé Ange, lors la trentaine révolue, qualifie la prestation des éléphants en ces termes.
C'était propre. Aujourd'hui, il n'y a pas combine, il n'y a rien. En tout cas, Bill là-bas, non, ils ont fait comme ça, ils ont fait. Non, tout était propre. Ils ont marqué sans parler ni rien. On est très content. Où on est lancé, même pas où on a dormi aujourd'hui même. Mais on est encore eu aujourd'hui.
Chauffeur dans une société pétrolière de la place, Kone Moussa abonde dans le même sens.
C'était très bien. La Côte d'Ivoire joue comme si j'étais à l'entraînement. Vraiment, félicitations pour la Côte d'Ivoire.
Comment est-ce que vous voyez la suite de la compétition pour les éléphants?
La suite, là, il n'y a pas de problème, puisque avec le Nigeria, ça serait une vengeance. Puisque le match a allé, on a eu à prendre 1-0 face à Nigeria sur penalty.
Qu'est-ce que vous attendez de l'entraîneur de l'équipe ivoirienne?
Le dispositif tactique de l'entraîneur est sans problème. Elle est très très bonne. C'est un bon entraîneur. On peut le garder. Vraiment, félicitations pour lui. Et on lui dit merci.
Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Tout autre sujet dans ce bulletin. Le vendredi 2 février dernier, la tonne de cacao pour livraison en mars 2024 a atteint les 5017 dollars américains, soit plus de 3 millions de francs CFA contre 4672 dollars américains, ce qui vaut un peu plus de 2 millions de francs CFA à une semaine plus tôt à New York. Il s'agit de la première fois que leur brand franchit le cap des 5000 dollars depuis 1977. Et donc pour le professeur Prao Yao Séraphin, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, cette hausse record du prix du cacao au plan mondial est liée à plusieurs facteurs, dont fondamentalement la baisse profonde de l'offre de fèves de cacao par les principaux pays producteurs, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous l'écoutons, il a été interrogé par Aoussi Potin.
Fondamentalement, la première cause
dû à une baisse profonde de l'offre de cacao. Vous savez que les premiers producteurs en Afrique sont respectivement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec 40% de l'offre, suivi du Ghana, 20%, et du Nigeria. Et donc, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, nous avons 70% de l'offre mondiale. Or, vous savez bien qu'il y a eu ces temps-ci une pluviométrie qui a déréglé la production cacaoïère. À cela, il faut ajouter aussi le problème de la diversification des revenus des planteurs. Et il faut ajouter aussi le fameux El Niño. C'est un réchauffement des eaux du Pacifique Sud. Et donc, ceux-là qui sont dans le Pacifique Sud, de l'autre côté, qui fournissent aussi le cacao, ont vu effectivement cette maladie jouer qualitativement et quantitativement sur la production. Donc, du coup, l'offre a baissé. Le déficit se situe aujourd'hui à peu près, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du cacao, hein, à 116 000 tonnes. Hein.
Est-ce que l'on peut s'attendre à une hausse des prix aux producteurs?
Non, je ne pense pas. Parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, après la malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, expérience, n'est-ce pas, de la libéralisation de la filière café cacao en Côte d'Ivoire, nous sommes revenus dans un système mixte où il y a une part de flexibilité exigée par la libéralisation et une part de fixité que nous avons empruntée effectivement de la caisse de stabilisation de feu au Faux-Boyer.
À l'instant, Prao Yao Séraphin, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. L'imam Cissé Djigiba de la Fondation Djigi a animé mardi une conférence de presse à la faveur de la commémoration de la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et du lancement d'un projet de lutte contre le fléau dans le Bafing. En Côte d'Ivoire, cette tendance de recul de la prévalence nationale est aussi observée et selon le rapport CIGI 2022, le taux de prévalence nationale des mutilations génitales féminines est passé de 36,7% en 2016 à 20% de nos jours. On écoute à cet effet les précisions du président du conseil d'administration de la Fondation Djigi, l'imam Cissé Djigi.
Vous savez que la lutte contre un fléau, n'est-ce pas, ne se gagne pas en un jour. Et particulièrement, notre arme, c'est la sensibilisation, la conscientisation et montrer tout ce que ça cause comme effet néfaste à court terme, moyen terme et long terme. La pratique de l'excision est en recul. Bien sûr, il reste encore des poches de résistance dans les zones rurales. Ça se comprend, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, les radios, les télévisions et les réseaux sociaux, toute la population est en phase d'être, en tout cas, bien informée.
Imam, 36,4%, on passe à 20% en 2024. C'est un bon boulot, imam.
Tout à fait. En fait, quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas convaincre. Nous savons que c'est une cause noble que nous défendons. Sur certaines de nos radios, nous diffusons nos messages en 25-26 langues pour que toute la sensibilité linguistique des peuples soit touchée et que, en cela, nous puissions très rapidement avancer. Et c'est vrai, votre constat est juste de 36 à 20. C'est pas 20 n'est pas notre objectif. C'est un acquis et au-delà duquel il faut aller pour zéro tolérance.
Nous écoutions le président du conseil d'administration de la Fondation Djigi, l'imam Cissé Djigiba. Dans l'actualité internationale, en Tunisie, 13 migrants soudanais sont morts et 20 autres sont portés disparus après le naufrage hier de leur embarcation en fer, partie clandestinement de la côte tunisienne près de Sfax, a indiqué à l'AFP le porte-parole du tribunal de Monastir, Farid Benja. Au total, 42 soudanais se trouvaient sur une embarcation de fortune, selon le récit aux autorités des deux uniques survivants du naufrage et des opérations sont encore en cours pour tenter de retrouver d'autres naufragés, a indiqué le porte-parole du tribunal de Monastir, Farid Benja. À présent, l'invité de la rédaction, qui est ce jour Dr Landry Amoussou, l'enseignant-chercheur à l'université Péléforo-Gon Koulibaly de Korogo, par ailleurs spécialiste en droit administratif, revient sur les textes régissant les rapports entre les maires et les gouverneurs de district. Il répond à cet effet aux questions de Junior Cardin.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
On a assisté il y a quelque temps à des démolitions d'espaces et de constructions dans Abidjan. Et
oui.
À cette occasion, il y a une certaine brouille entre le ministre-gouverneur et des maires. En la circonstance, qu'est-ce que les textes prévoient? Est-ce que les textes sont clairs?
Oui, alors, en réalité, entre les différentes compétences qu'il y a entre les mairies et le ministre-gouverneur, ces deux autorités interviennent parfois dans le même domaine. Donc, les textes qu'on a sous les yeux ne sont pas suffisamment précis. Il faut être honnête, ils ne sont pas suffisamment précis et les risques de confusion sont patents, effectivement, et la brouille qu'il y a eu entre les deux est la conséquence du manque de clarté des textes en la matière.
Ça veut dire qu'il y a problème pour encore longtemps?
Oui, mais le manque de clarté n'intervient pas seulement dans les textes relatifs aux collectivités territoriales. Sans faire du coq à l'âne, on a eu également le problème d'interprétation sur le troisième mandat. Vous étiez là. Le texte constitutionnel était vu pour certains comme suffisamment clair, alors que d'autres estimaient que ce n'était pas possible. Donc en droit, ça existe qu'un texte, à un moment donné, pose problème parce qu'il n'est pas suffisamment précis pour pouvoir partager les différents points de vue.
Mais quand les problèmes surviennent, comment donc pouvoir trouver des solutions? Parce que dans les relations entre les autorités, il y a régulièrement quelques problèmes.
Il faut saisir le juge. Le juge est juge de la légalité des textes. Donc c'est lui qui, lorsque l'affaire lui sera soumise, saura exactement donner une interprétation au texte. Sinon, au-delà de son interprétation, chacun va essayer de tirer le drap de son côté. C'est des conflits normalement qui se traitent devant le juge administratif.
Et pour le cas du plateau, pour être plus précis, on a parlé de l'espace Diakona où le député maire Jacques Ewo s'est plaint de l'engagement unilatéral du gouverneur. L'engagement unilatéral, c'était ça, hein, l'argumentaire du maire du plateau.
Oui, mais le maire ne peut pas exciper du fait qu'il possède en la matière un texte qui prévoit qu'on doit le prévenir ou engager des discussions. C'est tout ça le manque de clarté, parce que chaque autorité estime dans son droit et il n'a pas à prévenir ou du moins entrer en discussion avec le maire. Alors que d'un point de vue des autorités, le ministre-gouverneur semble avoir une compétence beaucoup plus large que le maire du plateau. Donc en réalité, dans leur entendement, c'est le maire qui devait engager des discussions avec eux et non l'inverse. Parce que chacun, en fonction des tests qu'il a sous les yeux, estime être en droit d'agir de la sorte. Ça renvoie encore au manque de clarté parce qu'on a deux districts, on a encore les ministres-gouverneurs, et on a encore des maires. Effectivement, ils vont forcément se marcher sur les pieds. Il faut des textes suffisamment clairs et précis pour faciliter, je dirais, l'intervention de chaque autorité.
D'accord, mais en attendant, une vidéo avait circulé en boucle hein, où le maire de Yopougon promettait de réquisitionner la force publique pour faire barrage aux démolitions à Jesco. Cela est possible contre une décision du ministre-gouverneur?
Alors, là encore, c'est une mauvaise interprétation du texte. Le maire de Yopougon n'est pas habilité de requérir la force publique contre une décision émanant d'une autre autorité administrative. Je crois que ça fait un peu désordre. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a visiblement des entorses à la légalité. Normalement, voilà comment ça se passe. Ils peuvent saisir le juge. C'est le juge qui peut ordonner à l'administration de attendre, patienter le temps que j'examine les textes en la matière. On ne fait pas un bras de fer sur le territoire de la République. Hein. Ce n'est pas comme ça les choses fonctionnent. Parce que l'autre autorité peut venir avec des policiers et vous avez des policiers. Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent.
Et dans le même sujet, le maire de Yopougon a également décidé de saisir le Conseil d'État pour dédommager les personnes impactées ayant des ACD et dont les maisons ont été détruites. Cette démarche peut-elle aboutir?
Il n'a pas qualité à agir. Ce n'est pas lui qui est impacté, c'est les personnes qui sont concernées qui saisissent le juge, pas le maire. Le maire ne peut pas s'auto-saisir, parce que pour saisir le juge administratif, il y a dans les pièces, il faut montrer qu'on a intérêt et on a qualité à agir. Le maire ne peut pas se substituer aux victimes. Ce n'est pas possible, cette voie ne peut pas aboutir, pas du tout.
Docteur Landry Amouzou, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup, à bientôt.
Invité de la rédaction, Dr Landry Amoussou, enseignant-chercheur à l'université Péléforogon, Koulibaly de Korogo, répondait aux questions de Junior Cardin et c'est la fin de ce bulletin dont voici le rappel des titres. La Côte d'Ivoire est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le trophée désormais à portée de main du pays organisateur. Mais avant, il faudra affronter dimanche prochain le Nigeria. Nous avons pu entendre dans ce bulletin les réactions de Sébastien Haller, des joueurs Sébastien Haller et de Franck Yannick Kessier. Et puis dans l'actualité internationale, 13 migrants soudanais sont morts dans un naufrage, 27 autres sont portés disparus. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite la revue de presse présentée par Francis Cassie.
Bonjour à tous. Dieu a sa main dans cette affaire. Dit le sage, trois fois miraculé, la Côte d'Ivoire a battu hier